Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre La France des Lumières 1715-1789, rédigé par Pierre-Yves Beaurepaire avec Joël Cornette, est un ouvrage de synthèse historique consacré à la France du XVIIIe siècle, depuis la mort de Louis XIV jusqu'à la convocation des États généraux. Dans cette version compacte de la collection Histoire de France, le livre propose une lecture structurée de l'Ancien Régime tardif en privilégiant les dynamiques politiques, sociales, économique et culturel, plutôt qu'un simple récit chronologique. Son objectif est de montrer comment le royaume devient un espace d'expérimentation réformatrice, de tensions sociales et de transformation des formes de pouvoir. L'ouvrage éclaire la montée de l'opinion publique, les hésitations de la monarchie face aux réformes, la fragilisation de la société d'ordre et les mutations qui préparent la Révolution française. Il s'adresse à ceux qui veulent comprendre la complexité des Lumières françaises dans une perspective historique rigoureuse et accessible. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la monarchie entre réformes administratives et hésitations politiques. L'un des apports majeurs du livre est de montrer que la France des Lumières ne se réduit pas à une monarchie immobile, mais à un système qui tente d'agir sur lui-même. Après la mort de Louis XIV, la Régence puis les décennies suivantes voient circuler de nombreux projets de refonte fiscale, de rationalisation administrative et de modernisation de l'État. Le livre insiste sur le fait que ces chantiers sont sus par des administrateurs qui veulent servir à la fois le roi et l'intérêt public, ce qui traduit une transformation profonde de la culture politique. Mais cette ambition se heurte rapidement à une difficulté centrale passée de l'expérimentation limitée à une application générale. La monarchie dispose d'informations, d'enquêtes et d'instruments nouveaux, sans parvenir à imposer durablement les réformes les plus sensibles. Cette tension entre volonté d'action et peur du conflit éclaire la fragilité croissante du pouvoir royal à la veille de 1789. Deuxièmement, l'opinion publique devient un acteur du débat politique. Le livre accorde une place importante à l'émergence de l'opinion publique comme force historique à part entière. Dans la France du XVIIIe siècle, celle-ci n'est plus seulement un témoin des affaires du royaume, mais progressivement un arbitre puis un juge des politiques menées. Ce déplacement est essentiel pour comprendre le basculement de la culture politique des Lumières. Les réformes ne se discutent plus seulement dans les ministères ou les cours souveraines, mais dans un espace plus large où interviennent gens de lettres, magistrats, milieux urbains et lecteurs cultivés. L'ouvrage montre ainsi que les controverses autour des finances, des privilèges, du gouvernement et des libertés prennent une dimension publique nouvelle. Cette dynamique ne signifie pas l'avènement d'une démocratie moderne, mais l'installation d'un regard critique sur l'action monarchique. En cela, la montée de l'opinion contribue à désacraliser l'autorité royale et à rendre visibles les limites du secret d'État. Troisièmement, une société d'ordre travaillée par les mobilités et les inégalités. Pierre-Yves Beaurepaire et Joël Cornette soulignent que la France des Lumières est marquée par des transformations sociales profondes, souvent contradictoires. La croissance économique n'y est pas uniforme, ce qui crée à la fois des opportunités d'ascension et des formes accrues de fragilité. Certaines catégories profitent de nouveaux circuits de richesse, d'information ou de services à l'État, tandis que d'autres subissent la précarité, les tensions des marchés et l'instabilité des conditions de vie. Le livre montre que ces mobilités ascendantes bousculent les cadres de la société d'ordre sans les abolir immédiatement. Elles rendent plus visibles les écarts de statut, les rivalités de mérite et les frustrations liées aux privilèges. Cette lecture sociale est importante car elle évite deux simplifications opposées, l'idée d'une société figée et l'idée d'une modernisation linéaire. En réalité, le XVIIIe siècle français combine renouvellement des élites, persistance des hiérarchies et vulnérabilité d'une partie de la population. Quatrièmement, les Lumières comme espace de circulation des savoirs et des réseaux. Elle, ouvrage, ne traite pas les Lumières comme un simple ensemble d'idées philosophiques abstraites, mais comme un monde de circulation, de réseaux et de pratiques. Les enquêtes menées pour réformer l'administration, les échanges savants, la diffusion des textes et la présence d'hommes de lettres dans l'espace public participent tous à la production d'une nouvelle intelligence du royaume. Cette approche rejoint les travaux de Beaurepaire sur les réseaux intellectuels et la circulation des savoirs en Europe. Le livre fait apparaître une France connectée à des débats plus vastes sur la science de l'État, la diplomatie, les finances et la place du bien public. Il s'agit donc moins d'opposer les Lumières à l'action gouvernementale que de montrer leur imbrication. Les Lumières servent à la fois à critiquer et à accompagner la réforme, ce qui explique leur rôle ambigu dans la crise de l'Ancien Régime. Cette perspective donne au lecteur une vision concrète des mécanismes de diffusion des idées. En dernier lieu, un tableau de longue durée qui relie Ancien Régime et Révolution. La force de ce livre tient aussi à sa manière de relier la période 1715-1789 à la dynamique plus longue qui conduit à la Révolution française. L'ouvrage ne présente pas 1789 comme une rupture surgie de nulle part, mais comme l'aboutissement d'une série de tensions accumulées, crise de la réforme, contestation des privilèges, fragilisation sociale, désacralisation du pouvoir et conflit entre intérêts particuliers et biens publics, en donnant toute leur place aux décennies de la Régence, de la monarchie de Louis XV et des tentatives de modernisation des années 1760-1780. Le livre restitue l'épaisseur historique du processus. Cette perspective de longue durée est précieuse, car elle permet de comprendre pourquoi les solutions envisagées par la monarchie finissent par paraître insuffisantes ou inacceptables. Le livre ne cherche pas seulement à raconter la fin de l'Ancien Régime, mais à expliquer comment un ordre politique réputé solide se trouve progressivement miné de l'intérieur. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux étudiants, enseignants, amateurs d'histoire moderne et lecteurs qui souhaitent comprendre la France du XVIe siècle sans se limiter aux clichés sur les Lumières ou sur l'Ancien Régime. Il est particulièrement utile à ceux qui cherchent une synthèse solide parce qu'il articule l'histoire politique, sociale, économique et culturelle au lieu de privilégier un seul angle d'approche. Le lecteur y gagne une compréhension plus fine des réformes monarchiques, du rôle croissant de l'opinion publique, des tensions de la société d'ordre et des mécanismes qui préparent 1789. Ce qui distingue cet ouvrage de beaucoup d'autres livres de synthèse, c'est son effort de renouvellement historiographique. Il ne répète pas un récit figé, mais montre une France en mouvement, traversée par des expériences de gouvernement, des débats publics et des conflits de légitimité. Sa densité et sa rigueur en font moins une introduction rapide qu'un outil de référence, capable d'accompagner aussi bien la lecture académique que la réflexion historique de fond. Si vous souhaitez soutenir Pierre-Yves Beaurepaire, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!